Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Chers auditeurs de Radio Présence et de Radio Lapourdi, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de retrouver notre évêque en ce début du mois d'octobre. Bonjour Monseigneur Marc Ayé.
Bonjour.
Bonjour Olivier Drapé, vous êtes le délégué épiscopal à l'information. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr de la crise des abus sexuels dans l'Église. Nous allons parler de ce qui s'est passé dernièrement dans l'Église universelle. Nous allons parler également des lois de bioéthique et de la PMA. Et puis nous parlerons aussi de quelques événements qui se sont passés dans notre diocèse cet été et puis de l'année pastorale 2018-2019. Alors Monseigneur Marc Ayé, l'Église a été frappée de plein fouet cet été par la révélation de plusieurs scandales.
C'est vrai que les scandales d'abus sexuels commis par des prêtres ont rejailli dans l'actualité au terme d'une enquête faite en Pennsylvanie, je pense aux États-Unis donc, qui révèle qu'entre 1946 et notre époque, et 2016, il y a eu un nombre conséquent de victimes et de prêtres qui ont été impliqués dans ces affaires. Il faut quand même reconnaître que ces faits sont déjà pour la plupart anciens et que dans les dernières années, étant donné les dispositions prises quand même par les évêques aux États-Unis à la demande expresse d'abord de Benoît XVI puis du pape François, les cas sont beaucoup moins nombreux. Mais on voit bien que ce scandale rejaillit sans cesse dès lors qu'il y a un cas qui se présente dans un diocèse, et ça a été le cas aussi par la suite aux États-Unis, en Allemagne. On se rappelle de la crise irlandaise, et c'est vrai que les médias, d'une certaine manière, mettent au grand jour, de manière assez massive, tous ces scandales qui sont accomplis par des prêtres. Bon. Il ne s'agit pas du tout de minimiser justement la gravité des faits. Et vous savez bien que dans l'Église, surtout en France, on est très attentif à cette question depuis l'an 2000, où on a mis en place un certain nombre de dispositions de prévention et de collaboration stricte avec la justice et d'accompagnement des victimes, hein, qui me semble être la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'on a mis du temps dans l'Église, mais c'est vrai aussi de toutes les institutions, à prendre conscience de la gravité du retentissement dans les victimes de ces actes perpétrés par n'importe qui, mais en particulier, évidemment, par des prêtres en qui on peut donner plus facilement, spontanément, sa confiance. Pour avoir entendu, depuis quelques années, longuement, des victimes d'actes pédophiles, je suis en effet tout à fait conscient de l'extrême gravité et le retentissement dans la durée que peuvent avoir des actes aussi répréhensibles dans la psychologie, dans le corps, dans l'âme, hein, de ces enfants qui deviennent des adultes et qui, quelquefois seulement après 30 ans, 40 ans, deviennent capables de parler de quelque chose qui leur était impossible de révéler auparavant. Et c'est pourquoi je consonne parfaitement avec le scandale causé. Après, il faut voir aussi comment la chose est traitée par les médias. Hein. Comme on le sait, les médias font des procès médiatiques, cherchent des coupables et les traquent même. Et puis souvent, l'Église est dans le collimateur, faut bien remarquer. Mais c'est vrai aussi que c'est tellement un contre-témoignage par rapport à notre message que ça le rend en effet un peu plus opaque et un peu moins crédible.
Monseigneur, c'est vrai qu'on attend du prêtre une certaine forme d'exemplarité. Cette crise révèle quand même une difficulté d'être prêtre aujourd'hui.
Alors ça c'est sûr, je pense qu'on doit attendre de tout adulte en responsabilité une exemplarité. Hein. Il ne faut pas le rejeter seulement sur le prêtre. Le prêtre en effet est porteur d'un message, d'un évangile, de valeurs, morales en particulier, qui sont évidemment complètement parasitées par les manquements et les agissements de quelques-uns, hein, qui rejaillissent évidemment sur l'ensemble du corps sacerdotal. Et c'est pourquoi je tiens, avec les évêques de France d'ailleurs dans leur déclaration, à redire toute ma confiance aux prêtres qui, dans leur immense majorité, accomplissent leur ministère avec beaucoup de générosité et une véritable intégrité. Mais voilà, les mauvais agissements de certains rejaillissent sur tous. Et c'est vrai qu'on sent bien que surtout si cela est étalé dans le grand public, en particulier dans la presse, eh ben ça a pour effet de créer un réflexe de suspicion et de défiance vis-à-vis de tous les prêtres chez beaucoup de nos contemporains et de nos concitoyens, y compris dans nos rangs et y compris au sein de nos communautés.
Quand on écoute les catholiques dans nos paroisses, ce qu'ils reprochent, finalement, ils comprennent que les prêtres sont des hommes aussi et qu'il peut y avoir des failles, ils peuvent avoir des déviances, ça peut arriver. Ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est comment l'Église a voulu les protéger et cacher finalement ces agissements.
Alors je crois, si vous voulez, que cette conspiration du silence, comme on l'a dit beaucoup, cette loi de l'omerta, elle ne caractérise pas seulement l'Église, hein, elle caractérise toutes les institutions. Et vous remarquerez quand même, dans l'actualité depuis quelques années, que la seule institution qui entre, même si c'est avec un certain temps, dans une certaine transparence, c'est l'Église. Vous n'entendez pas beaucoup parler des autres institutions, et pourtant, vous savez bien que même si c'est très grave, et peut-être plus grave quand il s'agit d'un prêtre, mais le retentissement est le même chez la victime, hein, que ce soit un prêtre ou que ce soit pas un prêtre. Mais vous n'entendez pas beaucoup parler des scandales qu'il y a dans l'éducation nationale, dans la jeunesse et les sports, dans le contexte familial, car c'est là que se passent la plupart des actes pédophiles, et pourtant, on le sait statistiquement, ils sont beaucoup plus nombreux dans ces institutions-là. Donc le silence, en effet, vient de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est certainement qu'on n'a pas pris conscience tout de suite de la gravité que ça représentait pour les victimes. Le deuxième facteur, c'est que, en effet, on ne voulait pas rejeter l'opprobre sur les autres prêtres, comme je le disais à l'instant. Et puis le troisième facteur, qui est évidemment moins louable, c'est qu'on ne voulait pas écorner dans l'opinion l'image de l'Église institution. Mais comme je le dis, moi, aux victimes qui viennent se présenter à moi, je leur dis, moi, je ne cherche pas du tout à préserver ou à protéger l'image de l'institution. Pour moi, l'Église n'est pas d'abord une institution, fût-elle divine. Ce sont des âmes, ce sont des personnes, innocentes. Et c'est elles qui doivent avoir premièrement notre préoccupation pastorale.
Dans certains cas, est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut de discernement dans l'accès au sacerdoce pour certains de ces hommes ?
Alors c'est évident que l'abus sexuel sur mineurs est une perversion qui peut provenir d'un manque de maturité psychologique et affective évidente, peut-être aussi de perversion structurelle, mais aussi tout simplement d'une immaturité, et qui veut dire aussi sans doute que pendant un certain temps, mais c'est surtout dans le passé d'ailleurs, hein, parce que on voit bien que la plupart des cas sont quand même déjà anciens, eh bien on n'était pas assez attentif à l'accueil, au discernement, à la formation psycho-affective des candidats au sacerdoce, surtout dans un monde qui n'a plus de repères. Hein, depuis les années 60, on est dans une société qui est complètement libertaire, libérale-libertaire, et qui n'a plus aucun repère dans l'ordre de la sexualité. Donc il ne faut pas s'étonner que si on n'y est pas plus attentif, en particulier dans la formation des prêtres qui sont voués au célibat sacerdotal, eh bien on puisse connaître ce genre de déviance et de déviation.
Certains évêques préconisent aujourd'hui, pour les séminaires, de faire entrer davantage les familles, les laïcs, pour que les prêtres ne se retrouvent pas en vase clos. Est-ce que...
C'est évident qu'il faut que les séminaires soient en contact des familles. Il faut qu'ils soient en contact des femmes en particulier aussi, et des laïcs dans leur formation. Je vois par exemple le chemin néocatéchuménal, comme vous savez, j'ai ouvert un séminaire Redemptoris Mater. Dans leur formation, ils cheminent dans une communauté qui est composée de gens mariés, de gens qui ne sont pas mariés, de femmes, d'hommes, de jeunes, de personnes anciennes. Et cet accompagnement dans un chemin d'initiation chrétienne avec des gens qui sont dans la vie est aussi très important pour leur propre discernement et leur propre maturation vers le sacerdoce.
Monseigneur, le diocèse, notre diocèse n'a pas non plus été épargné par ces affaires d'abus sexuels dans l'Église. Je pense en particulier à l'actualité récente. D'abord, le jugement, la condamnation, relativement clémente d'ailleurs, de l'abbé Sarah Magnan, le 11 septembre dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et d'ailleurs, comment les choses vont-elles maintenant se passer pour l'abbé Sarah Magnan ?
Ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'abbé Sarah Magnan a été jugé pour un cas Donc une seule victime, qui d'ailleurs à ce jour n'a pas porté plainte ni ne s'est constituée partie civile, et n'a même pas désiré être entendue par les autorités judiciaires, il n'a été jugé que sur ce que lui-même a confessé, si je puis dire, depuis ses faits, c'est-à-dire depuis l'année 90. Il n'a jamais été dans le déni. D'ailleurs, il a attenté à sa vie par deux fois, donc ce qui prouve l'impact que ses actes ont eu dans sa propre vie. Il n'y a jamais eu de récidive, et lui-même a accompli un chemin psychologique, un chemin spirituel, et à mon sens même a vraiment désiré, lorsque les choses sont arrivées au grand jour en 2016, que la justice se fasse, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu, pour sa victime, donc tourner complètement vers sa victime, réparer en justice ce qu'il se reprochait lui-même, avec un repentir sincère. Donc je comprends pourquoi, et c'est vrai que le tribunal a été clément et qu'il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et un sursis simple, c'est-à-dire sans aucune condition assortie de suivi psychologique ou autre. Et alors maintenant, nous entrons dans une phase canonique, donc je ne peux pas beaucoup vous dire plus. Il y a le procès civil qui a été accompli, et maintenant il revient à l'Église de statuer aussi sur son avenir, sachant qu'il y a une enquête, un procès canonique qui doit avoir lieu et qui se fera en même temps dans le diocèse et sous la direction évidemment du Saint-Siège, puisque la Congrégation présbytérienne de la foi est chargée d'une certaine exclusivité dans les cas des prêtres accusés d'abus sexuels sur mineurs.
Quelques jours après le jugement de l'abbé Serra-Magnan, la presse s'est fait l'écho de la mise en examen d'un prêtre du Béarn. C'était le 14 septembre dernier. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les faits eux-mêmes ?
C'est difficile. À partir du moment où ce prêtre a été mis en examen, au terme d'une enquête préliminaire, il faut maintenant attendre que justice se fasse. Il est à l'instruction, donc nous n'avons pas de déclaration de commentaire à faire. Et de toute façon, c'est le droit français et c'est justice. Il a droit à une présomption d'innocence tant que une sentence n'a pas été prononcée. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une plainte qui a été portée à ma connaissance, que comme la loi m'y oblige et comme l'Église m'en donne aussi la directive, j'ai forcément collaboré avec la justice pour permettre d'y voir clair. Il n'y a que la justice qui peut voir clair sur des plaintes qui sont quand même suffisamment lourdes pour des victimes potentielles. C'est la raison pour laquelle une enquête préliminaire a eu lieu. J'ai collaboré évidemment avec la justice jusqu'à ce que, au terme de cette enquête, les autorités judiciaires jugent bon, opportun de le placer en garde à vue et de le mettre en examen aujourd'hui. Sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il est en liberté avec un certain nombre de conditions assorties, comme celle de se présenter à la gendarmerie régulièrement, comme celle de recourir à des soins psychologiques et l'interdiction aussi évidemment de fréquenter des mineurs. Il a évidemment pris un avocat et nous, on est appelés aussi à l'accompagner le mieux possible en tant qu'il est un prêtre de notre presbytérium et qu'il reste un frère prêtre d'entre diocèses, même si la justice aboutit à une, on verra au terme de cette enquête, à une culpabilité qui devrait être encore précisée et qualifiée.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé, dans quelques instants.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Mgr Marc Caillé, à propos donc de ces affaires d'abus sexuels dans l'Église, le pape François a adressé une lettre au peuple de Dieu le 20 août. Je suppose que vous l'avez lu avec attention.
Bien sûr.
Alors qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette lettre ?
Le pape François, dans cette lettre au peuple de Dieu, reprend de manière plus succincte et sans doute plus simple une lettre qui avait été adressée au peuple irlandais par le pape Benoît XVI en son temps, lorsque avait éclaté un certain nombre d'abus sexuels aussi perpétrés par des prêtres en Irlande. Cette lettre donc a l'avantage en effet de nous rappeler à tous la nécessité de nous convertir. Hein. Je pense que quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. C'est le titre, je dirais, de cette lettre au peuple de Dieu adressée par le pape le 20 août dernier. Et il insiste en effet surtout sur les victimes. Bon. Donc il parle évidemment de tout ce que nous essayons de mettre en place déjà, des moyens de prévention, et puis de la collaboration avec la justice pour les fauteurs de ce genre d'agissement répréhensible. Mais il insiste surtout, et je crois que c'est au cœur même de notre préoccupation pastorale, comme vous le savez bien, d'ailleurs à la prochaine assemblée plénière des évêques de France, nous allons entendre en assemblée plénière quelques victimes de pédophilie, donc je crois que c'est important parce qu'on se rend bien compte que pour prendre en compte ou prendre conscience de la gravité des faits, il faut entendre les victimes et comprendre le retentissement encore une fois psychologique, moral, spirituel que tout cela a occasionnés dans leur vie. Donc l'insistance est mise sur l'accompagnement spirituel des victimes. Et comment nous, clercs et laïcs dans l'Église, eh bien chacun a sa part de responsabilité, et comment nous pouvons entrer dans une démarche de réparation spirituelle, de conversion aussi, de purification, et d'aider les victimes à travers ce que le pape préconise principalement dans cette lettre, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Hein. Nous organiserons d'ailleurs, très prochainement, une journée diocésaine de prière et de jeûne, en réparation, précisément, pour les abus sexuels sur mineurs perpétrés par des prêtres.
Alors dans cette lettre, le pape dénonce aussi une certaine déviance de l'autorité des clercs, ce qu'on appelle le cléricalisme. Alors, est-ce qu'il faut lutter contre le cléricalisme ? C'est un thème qui est pas mal à la mode, on l'entend de plus en plus en ce moment.
Oui. Je dois dire personnellement, Salva Reverencia, que je ne comprends pas bien le lien insistant qui est fait par certains ecclésiastiques de haut rang et par le pape dans cette lettre au peuple de Dieu, entre le cléricalisme et la pédophilie. Bon, je comprends en effet que dans la pédophilie, c'est-à-dire dans l'abus sexuel sur mineur de moins de 15 ans, il y a, hélas, l'exercice d'une autorité, hein, et donc un abus d'autorité, un abus de pouvoir et un abus de confiance qui peut aller jusqu'à un abus de conscience, hein, comme le dit le Saint-Père dans sa lettre. Mais c'est vrai de toute personne ayant autorité qui se rend coupable de tels agissements sur les mineurs. Donc tout mineur fait forcément confiance en un adulte. Alors s'il est prêtre, bah, il a une position, c'est vrai, mais s'il est instituteur, s'il est père de famille, c'est la même chose, vous voyez. Donc j'avoue ne pas très bien comprendre, d'ailleurs, quand je regarde le profil de certains prêtres de notre diocèse qui ont pu être effectivement accusés de pédophilie, je ne trouve pas chez eux un profil spécifiquement cléricaliste. Donc je ne comprends pas bien ce combat contre le cléricalisme qui reste toujours d'actualité indépendamment de la pédophilie. Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme au fond ? C'est le clerc qui profite de sa position et de son autorité, qui est celle qui lui était conférée par le Christ à travers l'ordination sacerdotale, pour servir ses intérêts, pour reprendre par le Saint Paul, et non ceux de Jésus-Christ. Et qui accomplit son ministère auprès des fidèles de manière qui n'est pas désintéressée. C'est-à-dire qui recherche d'abord son confort, qui recherche d'abord son intérêt, qui recherche d'abord son honneur, qui recherche d'abord la consécration de sa place, de son rang ou de son autorité. Évidemment que depuis l'Évangile, on lutte contre le cléricalisme. Mais si cléricalisme veut dire identité sacerdotale qui pourrait être remise en cause dans cette lutte contre le cléricalisme, là je dis non, et attention, j'avoue avoir été mal impressionné par le dossier du quotidien La Croix sur la lutte contre le cléricalisme. Car au fond, dans cette lutte contre le cléricalisme, il y a surtout l'excès inverse qui est démontré par la plupart des intervenants et des témoins, qui est celui du démocratisme et de l'égalitarisme. On est dans une telle confusion aujourd'hui que, sous prétexte que le prêtre assume son identité de prêtre, qui est configurée par une grâce spéciale, qui est celle du sacrement de l'ordre, au Christ tête et pasteur de l'Église, on risque de nier cette identité du prêtre et de considérer que finalement tout le ministère du prêtre peut être accompli indifféremment par des prêtres et par des laïcs. Je crois que c'est pas juste, si vous voulez. Quand on parle de moi, ce qui m'importe surtout, c'est que chacun, dans son état et dans sa spécificité, qu'il soit prêtre ou laïc, accomplisse de manière désintéressé, avec le don total de lui-même, la vocation et la mission qui est la sienne. Le prêtre, sa mission, c'est d'enseigner, c'est de sanctifier par les sacrements et c'est de gouverner. Avec la charité pastorale qui convient, c'est comme un serviteur et non pas comme un potentat. Comme Jésus le dit, il dit « Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous », on vient de l'entendre dans l'Évangile. Il ne nie pas et il ne dénie pas à ses apôtres d'être les premiers. Lui-même est la tête. Et il configure les prêtres à la tête. Mais il leur dit seulement d'exercer leur autorité comme un service. C'est autre chose, et ça c'est très important en effet. Pour moi c'est une de mes préoccupations dans la formation des futurs prêtres, c'est évident, et dans l'exercice du ministère sacerdotal. Mais pour autant, le prêtre est le premier, dans l'ordre de ce qui est sa mission pastorale. Les fidèles, ce qui m'importe pour eux, c'est que dans leur spécificité, ils soient des témoins de l'Évangile, dans leur famille, dans leur vie professionnelle, dans les associations auxquelles ils participent ou dans lesquelles ils militent. Parce que c'est là leur responsabilité, de par leur caractère séculier. Et on dira même que les prêtres et les laïcs sont co-responsables de la mission de l'Église. Ils ne sont pas co-responsables de la mission du prêtre. Voyez. Donc, oui, luttons contre le cléricalisme, mais ne nous trompons pas d'ennemis. Et si le cléricalisme consiste à exalter l'égalitarisme, la perte d'identité, on sait à quoi cela a conduit. On sait à quoi cette perte d'identité ou cette crise d'identité a conduit précisément après, dans les années 60-70, à un départ massif de prêtres. Et je ne crois pas qu'insister aujourd'hui trop sur le cléricalisme, quand les prêtres sont déjà montrés du doigt de manière permanente, parce que certains ont mal agi en abusant de mineurs, je ne crois pas que cela va vraiment les aider à vivre sereinement leur ministère, à tel point que peut-être des jeunes n'auront plus tellement envie de devenir prêtres.
Cette semaine va s'ouvrir à Rome le synode des évêques sur les jeunes, la foi et les vocations. C'est un synode qui a été préparé. Vous-même, vous avez répondu à un questionnaire avec la pastorale des jeunes du diocèse. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce synode ?
Alors, vous savez, c'est vrai que je suis pas dubitatif, mais c'est vrai que je consonne aussi à la voix de certains évêques qui se sont élevés depuis quelques semaines en disant « Est-ce que notre parole sera vraiment crédible ?» pour nous adresser aux jeunes dans le contexte turbulent et parasité par toutes ces affaires aujourd'hui dans l'Église. C'est vrai qu'il y a un instrumentum laboris qui a été élaboré au terme, en conclusion de ces questionnaires, qui est composé de trois parties sur la question de la pastorale des jeunes. Regarder, interpréter, choisir. On y retrouve d'ailleurs les trois actes de l'action catholique, voir, juger, agir. Regarder un peu l'évolution des jeunes. Je ne sais pas si ce regard est tout à fait exhaustif. Des jeunes qui, justement, ne sont pas dans l'Église. Interpréter, quels critères on a pour interpréter ces mouvements que nous constatons dans l'évolution du monde des jeunes aujourd'hui. Et en plus, c'est quand même planétaire, hein, donc c'est pas tout à fait la même culture ici ou là. Et enfin, choisir, quels sont les points d'attention. Je vois en effet que les points d'attention sont ceux de l'accompagnement, en particulier l'accompagnement spirituel des jeunes, leur responsabilisation dans la vie et dans l'Église, c'est le discernement du projet de Dieu dans leur vie, donc la vocation au sens large, mais aussi de la vocation spécifique. Il en sortira ce que l'Esprit-Saint voudra bien en faire sortir. Chacun va apporter son regard, son interprétation, ses orientations préférentielles. Le pape va écouter tout ça.
On vous sent pas très enthousiaste quand même.
Non, je suis pas très enthousiaste parce que je ne suis pas sûr que nos grands regards d'évêques et d'experts sur la jeunesse collent complètement à la réalité. Alors c'est vrai qu'il y a eu un plus dans la mesure où le pape François a réuni un pré-synode avec 300 jeunes choisis dans le monde entier, dans divers secteurs d'activité et autres, qui peut apporter aussi le regard des jeunes eux-mêmes. Mais je ne suis pas sûr que voilà. En tout cas, je suis pas enthousiaste après ce que j'ai lu, même si c'est très intéressant. Mais j'attends que l'Esprit Saint fasse avec les hommes qui ont été choisis pour participer à ce synode quelque chose et qui nous donne quelques orientations pour notre pastoral au quotidien.
Monseigneur, avez-vous un avis, une opinion concernant l'accord provisoire qui a été signé le 22 septembre entre le Vatican, en la personne du cardinal Parolin, secrétaire d'État, et la Chine communiste? C'est un accord qui reconnaît à l'Église officielle, qui est liée au Parti communiste chinois, un pouvoir de nomination des évêques en particulier, ce qui pose évidemment problème, notamment vis-à-vis de l'Église dite clandestine.
Oui, c'est évident que j'ai compris, moi en tout cas, en entendant parler de cet accord, dont je n'ai pas beaucoup d'éléments, que les chrétiens, les catholiques qui ont refusé de participer à l'Église patriotique, qui est quand même inféodé au régime communiste et au parti communiste, et qui ont voulu pour cela rester fidèles à Rome, et donc au pape, sont profondément meurtris, je sais, par au moins cette annonce, même sinon eux, peut-être eux aussi, pas tous les tenants et les aboutissants d'un accord qui est d'ordre diplomatique et qui est d'ordre politique. Ceci dit, moi je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir en juger. Je sais que le cardinal Zen, qui est l'archevêque émérite de Hong Kong, donc qui est un Chinois, donc qui connaît bien l'Église de Chine, est vent debout face à cet accord qui sera signé entre, ou a été signé entre le cardinal Parolin et le gouvernement chinois, et dit que c'est une trahison par rapport aux chrétiens clandestins qui veulent rester fidèles à Rome et qui refusent toute inféodation au régime communiste de Chine. Mais c'est tout ce que je peux en dire, parce que je pense bien que derrière ces accords, tous ces éléments ont dû être pris en compte et que peut-être l'Église ne peut pas publiquement donner tous les éléments qui sont induits dans cet accord.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, il y a quelques jours, le comité d'éthique, comité national consultatif d'éthique, a rendu un avis qui était très attendu à la suite des états généraux de la bioéthique de l'année 2018, cette grande consultation citoyenne sur un certain nombre de sujets très, très délicats. Sans grande surprise apparemment, le comité d'éthique a l'air de donner son feu vert, et donne clairement son feu vert, au moins à l'extension de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, de lesbiennes et pour les femmes célibataires, ainsi que d'autres aussi préconisations qui figurent dans cet avis. Alors nous avons déjà évoqué ce sujet, mais quelle est votre réaction ?
On savait déjà que le CCNE avait un avis favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. On le savait déjà, c'était avant même les états généraux de la bioéthique. Ce qui est étonnant sans doute, c'est que cet avis n'est pas changé. À la grande majorité du CCNE, à part deux exceptions près, je crois, après des états généraux qui ont été d'ailleurs pilotés par le CCNE lui-même. États généraux qui montrent qu'il n'y a décidément pas un large consensus en faveur de la PMA dans l'opinion française, et en tout cas de ceux qui se sont intéressés, mais de manière beaucoup plus massive que prévu, à ces états généraux, et qu'au contraire, il y a plutôt un large consensus contre l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Et d'ailleurs, le dernier sondage IFOP, qui est paru dimanche dernier, je crois, publié samedi ou dimanche dernier, montre que l'opinion publique est en train d'évoluer en préconisant même que ce débat soit reporté et qu'il risquerait d'induire de nouvelles divisions, de nouvelles fractures au sein de notre société, comme, on s'en souvient, le projet de loi Taubira du mariage pour tous. Donc c'est vrai que c'est étonnant que ceux qui ont piloté les états généraux n'aient pas plus intégré les résultats des états généraux dans l'avis qu'ils continuent, en persistant et en signant, de promulguer. Bon. Vous savez que le Conseil national de l'Ordre des médecins, quelques jours auparavant, a émis un avis également favorable. et que dans les médias, on entend un certain nombre de personnalités du gouvernement, en particulier la ministre de la Santé, dire aussi à qui veulent entendre qu'elle reste favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Donc on sent bien qu'il y a une préparation de l'opinion qui se fait, mais qui semble pour l'instant vouée à l'échec, puisque d'une manière assez majoritaire désormais, les Français ne se sentent pas prêts à une telle évolution sociétale, peut-être parce que ils ont le souvenir des remous qui ont été provoqués au cours de la présidence Hollande par la loi Taubira.
Tout à fait, Monseigneur. Néanmoins, il semble que le gouvernement, en tout cas son porte-parole il y a encore quelques jours, considère que l'extension de la PMA que vous avez évoquée doit figurer dans le projet de loi qui sera certainement révélé au mois de novembre prochain. Dès lors, est-il important que les citoyens qui ont conscience de la gravité de cette évolution et que, a fortiori peut-être, les laïcs catholiques se mobilisent pour tenter de s'opposer, et d'ailleurs avec quelle chance de succès, à cette évolution?
Alors déjà, si vous voulez, pressentant cet avis sans doute du CCNE, même si c'est en dialogue avec le rapport des États généraux qui a été produit aussi par le CNE il y a quelques mois, si vous vous souvenez, ou quelques semaines, les évêques, donc nous les évêques, de manière même nominative, hein, ce qui est assez nouveau dans notre manière de déclaration, et ça a déjà été fait pour l'euthanasie l'an dernier, ou au début de cette année, nous avons fait une déclaration sur la dignité de la procréation, hein, et en particulier sur la PMA, la procréation médicalement assistée, qui est introduite dans cette révision des lois de bioéthique. Donc c'est important, je pense que ce document est extrêmement argumenté, d'un point de vue à la fois scientifique, juridique et évidemment éthique, et apparaît une contribution très importante dans ce débat, qui a été publié le 20 septembre, soit quelques jours avant l'avis rendu par le CCNE, qui, je crois, n'est pas complètement passé inaperçu. Et de fait, que ce soit dans la presse nationale ou dans la presse régionale, écrite ou audiovisuelle, on a quand même fait part de cet avis des évêques en disant qu'ils étaient contre la PMA. Bon, ça le mérite d'être clair, même si on dira que c'est pour la procréation et la dignité de la procréation et pour le droit de l'enfant à naître dans des conditions qui soient dignes et à grandir dans une famille avec un père et une mère. Bon, voilà. Donc je pense que c'est important, en effet, déjà, dans un premier temps, avant de parler de mobilisation, mais ça revient aux citoyens eux-mêmes, c'est pas aux évêques à prendre la tête d'une mobilisation de ce type, d'une mobilisation citoyenne, même si elle peut, si les évêques peuvent l'encourager et peuvent même l'accompagner. Mais disons que la première chose qui importe aujourd'hui, c'est de rejoindre les citoyens. Et c'est vrai qu'on aura fort à faire, parce que on voit bien que les médias, d'une manière générale, qui touchent des millions de nos concitoyens, sont plutôt porteurs de cette évolution sociétale. Et on sent bien que le président de la République sera en difficulté. Il est déjà en grande difficulté dans l'opinion publique pour ses réformes de type économique, qu'il assimile d'ailleurs dans l'opinion à un dirigeant de droite, donc qui n'est pas forcément pour flatter son aile gauche. Il est en difficulté parce qu'il a toujours dit qu'il ne ferait rien sans un large consensus de l'opinion. Or, les États généraux étaient là pour révéler un peu l'état de l'opinion, et le large consensus non seulement n'est pas obtenu en faveur, mais plutôt à contrario de cette évolution sociétale. Et il est pressé par des lobbies, évidemment, très influents, qui ont pignon sur rue dans les médias, et il est pressé aussi par ses collaborateurs. On le voit bien dans les prises de position actuelles. Donc il y a, à mon avis, si vous le permettez, une bataille qui est en train de se lancer. C'est bien de rester dans le dialogue, et je crois qu'on a raison, dans le dialogue, d'avoir commis cette belle déclaration qui demeurera un texte de référence essentiel. Mais on va entrer dans une bataille qui est la bataille de la vérité. Est-ce que la vérité sur les enjeux éthiques en particulier, de la PMA, seront portés à la connaissance de nos citoyens, de telle sorte qu'ils puissent en effet, par des mobilisations citoyennes, y compris des manifestations dans la rue comme on en a connu pour la Lotobira, pouvoir s'exprimer. Voyez. Or, les enjeux éthiques sont simples. C'est que c'est pas seulement la PMA ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires, même si on voit bien que c'est quand même une révolution sociétale. La PMA jusqu'à présent est encadrée et est destinée aux couples hétérosexuels qui sont naturellement capables de procréer, mais dont l'infertilité est médicalement diagnostiquée. Là, c'est donner la possibilité de procréer à des couples qui ne sont pas naturellement capable de procréer. Donc on est dans deux cas de figure complètement différents. Et donc on est en train de considérer que la mise en œuvre un enfant est l'objet d'une fabrication technique qui est instrumentalisée au désir individualiste ou individuel de personnes en souffrance, dont il faut aussi, c'est vrai, reconnaître et accompagner les souffrances, mais qui n'est plus pour des raisons pathologiques. Donc on met une technique médicale au service d'un projet qui n'est plus un projet thérapeutique. Voyez, sans compter que on introduit un tiers donneur la plupart du temps dans une relation conjugale, mais c'est déjà vrai dans l'ordre des couples hétérosexuels, hein, qui va brouiller la filiation. Sachant qu'il y a l'anonymat du donneur, eh bien l'enfant ainsi conçu n'aura pas connaissance de son géniteur. Et on sait que c'est très important pour la structuration de la personnalité humaine. Sans compter que la troisième chose, c'est qu'il y a des embryons surnuméraires dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce qu'on sait très bien que la technique principale de la procréation médicalement assistée est la FIV, hein, la FIVette, la fécondation in vitro avec transfert d'embryons dans l'utérus de la mère, et qu'on ne peut pas faire l'économie d'embryons surnuméraires qui, pour certains, vont être détruits, d'autres congelés s'il y a un projet parental, d'autres voués à l'expérimentation. Et donc, instrumentaliser un embryon au service d'un désir, d'un projet parental, ou de la société, ou de l'expérimentation médicale. Si l'on reconnaît, comme c'est notre credo hein, dans l'Église, mais qui ne s'enracine pas dans une affirmation de foi religieuse, mais dans les données de la science, et de la science moderne, en partie de la génétique, que l'embryon est déjà une vie humaine dès sa conception, eh bien on considère qu'il a une dignité, qui est celle de la personne humaine, à égalité avec toute personne humaine.
Monseigneur Haye, de plus en plus de citoyens se mobilisent en faveur de la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, à Bayonne, il y aura un grand rassemblement en ce sens les 6 et 7 octobre. Dans une conférence que vous avez donnée en mai dernier à la Maison diocésaine de Bayonne sur l'exhortation apostolique du pape Gaudete Exultate, je vous cite de mémoire, quelle prétention de penser que l'homme peut être un facteur du changement climatique.
Ah, qu'il soit le seul facteur du changement climatique. Hein, je pense que
vous avez l'air de mettre en doute ce changement.
Alors je suis pas
de l'homme.
Je ne suis pas climato-sceptique dans le sens où j'ai tout à fait conscience que nous connaissons des changements climatiques. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'homme n'est pas à lui seul responsable de ce changement climatique, même s'il doit assumer sa responsabilité.
Parler de cycles.
Il y a aussi des cycles, évidemment. Je pense qu'on peut pas. Et c'est là où je dis, pour y avoir une prétention, c'était dans un contexte beaucoup plus large que la question de l'écologie, hein, comme vous vous en souvenez sans doute, c'était le contexte de l'appel à la sainteté hein, dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'homme est tellement, par la technique, par sa science et sa technique, tellement sûr d'être maître de la création, qu'il peut prétendre que même lui-même peut être à l'origine de tels changements qui affectent de manière grave notre planète, et donc l'humanité, et donc les générations à venir, parce que c'est bien cela qui est le vrai mobile de l'engagement écologique, si je puis dire, ou de la conversion écologique dont parle le pape François, c'est la préservation de la maison commune, et en particulier la transmission de la création qui nous a été, dont nous sommes les intendant hein, de la part de Dieu, eh bien aux générations qui viennent. Bon, j'ai seulement voulu dire ça. J'ai pas dit que l'homme n'avait pas des responsabilités, et je pense bien qu'il faut que dans ce qui est de ses responsabilités, eh bien il convertisse ses modes de vie. Hein, et ça, on est tout à fait d'accord. Ce que je crois aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut que cette écologie dépasse les questions climatiques et environnementales. Et que le pape, quand il parle dans la dot aussi de la conversion écologique, il parle d'une écologie intégrale, ou pour reprendre la terminologie de Benoît XVI qu'il assume également, d'écologie humaine. Vous remarquerez d'ailleurs que ce souci écologique de transmettre aux générations futures une création apaisée et où il est encore possible de vivre sereinement est tout à fait louable. Et par contre, on a l'impression que dans d'autres logiques, comme celle de la PMA que nous venons d'évoquer à l'instant, comme celle de la procréation médicalement assistée, ben on n'est pas tellement le souci de l'avenir de ces enfants que l'on va mettre au monde dans des conditions qui sont très aléatoires et dont on ne sait pas les retentissements que cela aura dans leur vie, en particulier la question de la filiation, la question de connaître ses géniteurs et la question aussi de toute cet être biopsychique qui se développe depuis la conception, d'abord dans une vie intra-utérine avant d'être livré à notre monde.
Il y a une montée du racisme et de la xénophobie en Europe liée à la crise des migrants, à l'accueil notamment des migrants. Qu'est-ce que vous percevez sur cette question?
Alors, y a-t-il une montée du racisme et de la xénophobie? De fait, on rencontre d'actes tout à fait répréhensibles qui pourraient être d'ordre raciste et xénophobe, mais il faut pas mettre dans le racisme et la xénophobie certaines prudences politiques qui reviennent au gouvernement de réguler les flux migratoires. Je pense que ça a toujours existé. L'Ordre de l'Église le reconnaît aux États, ne serait-ce que pour le bien des immigrés eux-mêmes, qui ont le droit d'émigrer, sans doute, mais qui ont le droit de ne pas émigrer. Et j'en parlais d'ailleurs avec mon ami prêtre burkinabé, qui aujourd'hui est au Niger en mission, mais il me disait, lui, par rapport à ce phénomène de l'immigration en Europe, il disait c'est sûr que nous, on est doublement pénalisés, parce que non seulement nous sommes dans des pays pauvres avec difficulté de nous développer, mais ce sont évidemment pas les plus pauvres qui arrivent à émigrer, ce sont les plus dotés. Et donc ceux qui nous seraient encore plus utiles pour permettre à nos sociétés d'évoluer. Donc pour permettre le droit de ne pas émigrer, je pense que les États doivent forcément avoir une politique migratoire concertée de manière internationale, et en particulier avec les pays de provenance de l'immigration. C'est vrai aussi qu'on a aujourd'hui un terme migrant, qui est un terme un peu ambigu, passe-partout, qui nous fait oublier que parmi ceux qui émigrent et qui viennent s'installer dans nos pays, il y a des gens qui fuient la guerre et la famine et qui n'ont pas d'autre solution. Il y a des gens qui sont réfugiés politiques parce qu'ils fuient la persécution, et donc qui ont devant lesquels on a un devoir vraiment d'accueil. Puis il y a aussi ceux qui pensent qu'ils vont vivre mieux et plus confortablement dans les pays du Nord parce que ils sont attirés aussi par l'Eldorado que représente pour eux, grâce aux médias qui mondialisés et globalisés, qui leur montrent que nous vivons dans un confort qui dépasse infiniment ce qu'ils vivent eux-mêmes. Voilà. Donc il faut aborder ces choses avec prudence. Non, bien sûr, au racisme et à l'exophobie, ça c'est évident, qui peut naître aussi de l'excitation de peur indue, mais surtout ne pas tout confondre. Et on peut comprendre, et d'ailleurs on voit bien aujourd'hui qu'il y a de grands problèmes au sein de l'Union européenne, entre les différents États, entre les différents peuples d'Europe, il faut aussi comprendre que les États puissent réguler en justice, dans l'absolu respect de la dignité de toute personne humaine, quelle qu'elle soit, les flux migratoires.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Marc Caillé, vous étiez à la cathédrale de Bayonne le 5 septembre pour accueillir les représentants de l'enseignement catholique. C'est important pour l'évêque d'être auprès des enseignants et auprès du directeur diocésain?
Oui, tout à fait. Cette année, j'ai demandé et j'ai souhaité que l'on fasse une rentrée de l'enseignement catholique un peu moins confidentielle et plus officielle. C'est pourquoi j'ai demandé que la messe ait lieu à la cathédrale et que ce soit le jour de la journée de rentrée des chefs d'établissement. Et de manière à ce que tous les chefs d'établissement puissent être là, pas seulement ceux qui reçoivent la lettre de mission, comme chaque année, accompagnés de quelques représentants de leurs établissements, donc qui se passaient en général dans un établissement seulement catholique, que ce soit au Pays Basque ou que ce soit à Bayonne, dans le Béarn, alternativement. Et cette année, je me suis dit, faisons une journée plus officielle avec une messe à la cathédrale où tous peuvent venir pour comprendre l'enjeu pastoral en termes de mission d'évangélisation en particulier, et de mission d'éducation évidemment, spécifiquement de notre enseignement catholique. Et donc je crois que c'est une première, et je me félicite de voir que la plupart des chefs d'établissement étaient présents à cette messe qui concluait cette journée de rentrée donc avec les diocésains à la maison diocésaine de Bayonne pour les orientations de l'année, une conférence que j'ai donnée sur la exhortation apostolique sur la vocation à la sainteté dans le monde actuel du pape François, Gaudete et Exultate, suivie de la messe au cours de laquelle on a donné la lettre de mission à tous les nouveaux chefs d'établissement du diocèse.
Ils étaient combien cette année?
Les nouveaux chefs d'établissement, une petite dizaine, je crois, si ma mémoire est bonne. Une dizaine ou une douzaine, voilà. Dans le premier comme dans le second degré. Donc, pour moi, c'était l'occasion aussi de parler aux chefs d'établissement et de les encourager dans ce qui fait le cœur de leur mission, même si je sais bien que la fonction de chef d'établissement s'est beaucoup complexifiée d'un point de vue académique, administratif, pédagogique, avec les réformes qui ne cessent de s'enchaîner avec les gouvernements successifs, et que pourtant le cœur de cible de leur mission, c'est la mission ecclésiale qu'ils reçoivent de l'Église à travers l'évêque, qui est une mission pastorale, puisque vous savez que nous donnons aux chefs d'établissement en France de l'enseignement catholique une mission, une responsabilité pastorale. Donc je le rappelle toujours, comment il faut vivre cette mission, pas seulement la déléguer, la vivre à plein, malgré le trop-plein de leurs activités administratives et pédagogiques, et en lien avec un prêtre envoyé en mission. C'est une manière de les encourager, bien sûr, dans cette mission pastorale.
Vous étiez aussi à Lourdes avec les malades, les personnes malades et handicapées accompagnées par l'hospitalité basco-béarnaise. C'est toujours un beau moment d'église.
C'est un moment de grande consolation, je pense, pour tout le monde, que ce pèlerinage de l'HBB et pèlerinage diocésain le dimanche de ce pèlerinage. Nous avions un millier d'hospitaliers cette année, 200 jeunes de l'enseignement catholique qui font une expérience aussi inoubliable, un petit Pelé Sourire qui s'est fondé il y a 2-3 ans avec une trentaine de jeunes enfants, une petite école du service qui vient de se fonder aussi pour accueillir des jeunes qui ne peuvent pas encore, parce qu'ils sont trop jeunes, s'engager dans l'hospitalité. Donc c'est vrai que c'est un très beau moment de charité partagée sous le regard du Seigneur et surtout de la Vierge Marie à Lourdes, et puis cette journée diocésaine qui peut être considérée comme une journée de rentrée, avec à peu près 4000 fidèles qui viennent de tout le diocèse et qui sont heureux de se retrouver pour célébrer le Seigneur, pour prier la Sainte Vierge, pour entourer nos malades et pour faire église, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire donner un beau signe de vitalité de notre église au début de cette année, alors qu'on était quand même un peu groggy par toutes les événements et les turbulences qui traversent l'église aujourd'hui.
Monseigneur Ayel, l'année pastorale est maintenant bien entamée, la rentrée est derrière nous. Alors il s'est déjà passé un certain nombre d'événements dans le diocèse qui ont eu un certain retentissement ou un certain succès. Par exemple, tout récemment à Bayonne, le festival du cinéma chrétien, c'était du 19 au 25 septembre. Vous êtes intervenu d'ailleurs dans un des débats le premier jour pour le lancement du festival, mais aussi beaucoup d'autres choses dont vous pourriez nous parler. Par exemple, la rentrée au séminaire, comment se passe-t-elle cette année, ou les projets concernant les paroisses et les pôles missionnaires, où en est-on? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Voilà, mais pour la rentrée au séminaire, il y a donc un nouveau séminariste qui était propédeute l'an dernier, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que nos effectifs cette année sont assez modestes, si on compte les séminaristes qui sont en stage pastoral, intercycle ou de fin de cycle, les diacres qui attendent l'ordination sacerdotale l'année prochaine. Donc la communauté du séminaire est un peu plus resserrée cette année.
Combien de personnes? Parce que les auditeurs aiment bien savoir.
Ils sont une dizaine dans le séminaire, sans compter évidemment pour les cours, les jeunes du séminaire Redemptoris Mater, du chemin du Catéchum d'Al, qui viennent les rejoindre pour les cours.
Ils sont combien?
Ils sont 11, mais pour l'instant ils sont pas tous au séminaire parce qu'il y en a qui sont encore en propédeutique et qui sont en train d'apprendre le français. Donc il faut absolument qu'ils connaissent le français avant de pouvoir suivre les cours.
Ça fait une vingtaine de jeunes quand même qui se préparent à devenir prêtres.
Alors un peu plus, parce que pour le séminaire diocésain des 5 heures Jésus de Marie, je parle des 10 qui sont à l'intérieur du séminaire cette année, mais il y en a une dizaine qui sont en dehors du séminaire pour les stages
fait une trentaine.
Donc ça fait une trentaine en tout, voilà, pour le diocèse, qui seront appelés à être prêtres diocésains s'il plaît à Dieu, voilà. Donc la rentrée au séminaire se passe sous les meilleurs auspices, avec une équipe qui est un peu renforcée cette année, puisque ils sont 3 permanents à vivre au séminaire, donc le recteur, l'abbé Philippe Beitia, l'abbé Paul-Marie Boutin qui est déjà là depuis 2 ans, et puis l'abbé Jean-Guy Sabal, qui demeure aumônier de la maison Samuel, mais qui vit au séminaire. Donc ça fait une petite équipe renforcée, et une petite communauté éducative qui a son importance évidemment pour accompagner ces jeunes vers le sacerdoce.
Parlons des pôles missionnaires, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en route depuis quelques mois maintenant. Vous avez réuni les prêtres, les curés, les prêtres coopérateurs des paroisses à Belloc le 20 septembre, pour leur dire quoi?
En fait, pour les faire travailler, pas tant pour leur dire que pour les écouter. Voilà, c'est une journée qu'on a organisée et où les prêtres ont bien répondu. Je crois qu'il y avait à peu près 70 inscrits. Curé et prêtre coopérateur. Donc il ne s'agissait pas d'inviter tous les prêtres, en particulier les prêtres auxiliaires, qui sont aussi très nombreux et très actifs dans nos communautés. L'idée, c'était, après une petite introduction que j'avais faite, pour modifier un peu l'orientation d'une feuille de route qu'on avait distribuée pour amendement aux prêtres il y a déjà 1 an, qui consistait à dire le pôle missionnaire, c'est pas d'abord une nouvelle structure, c'est pas d'abord une nouvelle organisation qui va se superposer à la structure de nos nouvelles paroisses qui datent maintenant de 20 ans. C'est pas d'abord un territoire qu'il faut animer, c'est une communauté. Et c'est une communauté de disciples missionnaires, selon l'expression consacrée maintenant par le pape François. Voilà. C'est donc une petite fraternité missionnaire qui repose sur une équipe, si possible, de prêtres, et qui est rejointe par une équipe de fidèles laïcs qui prennent conscience de leur responsabilité dans l'ordre de l'annonce de l'Évangile à ceux qui sont loin. Et donc qui s'établissent dans la spécificité de leur identité de laïc, dont Jean-Paul II disait quel était leur caractère séculier, c'est-à-dire leur immersion dans les réalités du siècle, dans les réalités du monde, dans les réalités temporelles, que j'ai déjà citées, la famille, la vie professionnelle, le loisir, les associations culturelles, sociales, politiques, tout ce que vous voudrez. Et donc l'idée, c'est de se dire comment l'Église, communauté missionnaire, va se constituer sur un territoire sans doute, avec les 5 essentiels que l'on retrouve dans l'Évangile et en particulier dans les Actes des Apôtres, la prière, la formation, le service, l'évangélisation et la communauté, la fraternité. Voilà. Se dire comment une fraternité missionnaire va se constituer de prêtres et de laïcs qui vont peu à peu permettre à une communauté paroissiale ou plusieurs communautés paroissiales rassemblées dans un pôle missionnaire, qu'importe l'échelle, va se mettre en sortie missionnaire et en position d'annoncer l'Évangile à ceux qui se sont éloignés, à ceux qui sont loin, à ceux qui ne se sont pas concernés aujourd'hui par une demande sacramentelle ou autre, par ce que nous vivons à l'intérieur de nos églises. Donc, vous voyez, donc j'ai insisté moi pour ma part sur l'expression que l'on retrouve chez Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Christi Fidelis Laici sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, et sur un discours de Benoît XVI en 2012 adressé à l'Action catholique italienne, l'expression co-responsabilité des prêtres et des laïcs. en essayant de bien dire que cette co-responsabilité, elle n'est pas tant à l'intérieur de l'organisation pastorale de l'Église, mais dans la mission d'annoncer l'Évangile à tous, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et donc ça a permis à des groupes de travail, donc par doyenné en général, ou par zone territoriale, de réfléchir avec un petit questionnaire à comment est-ce que nous sommes déjà missionnaires, dans ce sens, dans nos paroisses, donc ils ont partagé là-dessus la matinée, et l'après-midi, qu'est-ce que nous voudrions faire et qu'est-ce que nous rêvons pour être effectivement une communauté davantage missionnaire. Voilà. Il y a une petite remontée à la fin. Ça a permis surtout des échanges entre eux, ce qu'on pourrait appeler le co-développement. Hein, et ça nous permettra d'avancer en disant qu'il y aura bientôt une autre assemblée qui comprendra non seulement les curés et leurs prêtres coopérateurs, mais aussi les laïcs les plus engagés dans la mission de leur paroisse.
Monseigneur Hayer, quels seront les grands rendez-vous de l'année pastorale? J'ai envie de commencer par dire presque 10 ans déjà. Vous avez été ordonné il y a 10 ans, évêque de Bayonne, Escarré et Oloron. Est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu pour marquer cet anniversaire?
Oui, alors donc je pense que c'est bien de marquer cet anniversaire et donc de faire un petit point d'étape pour le 10e anniversaire de mon ordination épiscopale. Donc c'était le 30 novembre 2008 et donc je célébrerai une messe d'action de grâce le dimanche 2 décembre à la cathédrale, donc pour le premier dimanche de l'Avent, qui était le jour de mon ordination épiscopale.
À quelle heure?
À 16h. À la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants que vous voudriez, en ce début d'année pastorale, signaler à ceux qui nous écoutent?
Ben, cette année, comme rendez-vous important, il y aura surtout en janvier les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Alors c'est vrai que ça ne concernera pas concrètement un nombre très important de jeunes, mais ça intéressera toute la pastorale des jeunes et ça intéressera tout le diocèse. Une délégation d'une petite vingtaine de jeunes du diocèse, conduite par l'abbé Sange de Françu, qui est maintenant le nouvel aumônier des étudiants de Pau, qui concernera d'ailleurs plutôt des jeunes professionnels qui vont prendre 15 jours pour pouvoir vivre cette grande aventure à Panama, et que j'accompagnerai moi-même la dernière semaine. Donc vous voyez que ça, ce sera un événement important qui va focaliser certainement l'attention de la pastorale des jeunes. Sans doute que les moments les plus importants cette année, ce seront des temps forts de la pastorale des jeunes, en particulier au moment des rameaux, la journée diocésaine des jeunes, sans doute en lien avec les JMJ qui auront eu lieu en janvier à Panama, qui sera un grand festival assez missionnaire qui aura lieu, qui s'appelle Jeunesse 2000 et qui aura lieu donc à Pau pour les Journées Mondiales Jeunesse. Autrement, il n'y aura pas de journée diocèse en fait, et je dirais que les événements, ce sont les événements de la vie de nos paroisses et de nos différents services diocésains qui organisent des journées, qui organisent des temps forts tout au long de l'année.
Merci à vous, Monseigneur Marc Hayer, merci Olivier Drapé, et merci à tous les auditeurs d'avoir eu la patience de nous écouter. Merci.